Alors du coup, ce que j'avais à cœur, ça fait un moment que je l'avais en tête, mais c'est pas un sujet facile. Et je prétends absolument pas être la mieux placée pour en parler, loin de là. Mais ceci dit, je pense que c'est un sujet qu'il est important qu'on y réfléchisse ensemble, ou au moins prendre conscience que parfois on prend pour acquis des choses qui ne le sont peut-être pas. Et voilà, je veux vraiment qu'on puisse juste se poser. Alors vous l'avez peut-être déjà fait, bien sûr, personnellement, mais voilà, ensemble, je voulais vous faire part aussi de certaines de mes réflexions avec Dieu. La fois particulière où je me suis attardée sur le sujet, c'était quand j'étais à l'école biblique. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, j'étais à Dallas, aux États-Unis, faire une école biblique là-bas. Et on avait eu un temps de louange et la plupart des temps, les temps de louange là-bas étaient assez ouf. C'était impressionnant parce que je veux dire, c'était 1000 personnes. Donc, vous voyez, tous les jours, 1000 personnes, enfin, c'est qui en veulent, qui sont là pour ça, quoi. Donc, forcément, c'est un truc qui, c'est une expérience, quoi. Voilà. Et donc, il y avait un temps particulièrement fort ce matin-là. Et le directeur de l'école biblique, il s'est senti vraiment interpellé par Dieu pour parler de ce sujet.
Carrie.
Et il a parlé vraiment de son cœur. C'était normalement on avait peut-être des cours avec lui, mais c'était pas forcément le moment d'un cours, donc c'était pas prévu. Et il a vraiment juste partagé son cœur là-dessus. Et ça m'a fait voilà, ça m'a fait réfléchir. Et le problème c'est que j'ai pris des notes et j'ai fouillé mes notes mais partout et j'arrive pas à les retrouver. Donc le jour où je les retrouve, je compléterai ce que j'ai dit là. J'ai dit ce dont je me souvenais, ce qui m'avait marqué. Mais je sais qu'il y a encore des choses et j'aimerais bien retrouver mes notes. Donc un jour, j'y arriverai. Mais voilà, et donc ce sujet, c'est la souffrance. Voilà, la souffrance. Alors c'est vague parce que la souffrance, il y a plein de souffrances différentes. Il y a la souffrance physique, morale, émotionnelle, psychique, spirituelle. Enfin voilà, il y a plein de souffrances différentes. Mais voilà, c'est assez global. Donc voilà, la souffrance. Alors on va lire ensemble 1 Pierre 4, 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leurs âmes fidèles au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Passage très riche, pas forcément évident à comprendre, à saisir, à accepter. Je ne prétends pas que je vais faire une explication de ce passage, mais c'est dans la Bible. Et on sait que la Bible, c'est notre référence, c'est ce qui nous enseigne. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il était important de rappeler ce passage-là. Donc ce que je voudrais partager, c'est le fait que la façon dont on perçoit la souffrance dans nos vies. La plupart du temps, la première chose qu'on cherche à faire, la souffrance, on veut l'expulser de nos vies. Et les réflexions qui commencent, c'est on a l'impression que si on a de la souffrance dans nos vies, c'est un signe de punition. On a fait quelque chose de pas bien, paf, allez, tu vas souffrir. Et c'est un peu les raisonnements qui nous viennent, on va dire, naturellement. Ou que bah, quelque chose ne va pas. Ce qui n'est pas toujours faux. Alors, tout de suite, je mets l'intervention en disant que je veux rester dans un équilibre. Je ne fais absolument pas l'apologie de la souffrance. Il ne s'agit pas de rechercher la souffrance à tout prix, hein, comme on sait qu'il y a certaines communautés hein, qui cherchent absolument la souffrance pour mieux atteindre un état spirituel plus proche de Dieu, etc. Je ne suis pas du tout là-dedans, je vous rassure. Mais je pense aussi que notre réflexe ne doit pas être forcément de chercher à repousser cette souffrance à tout prix. Je voulais prendre l'exemple qui m'est apparu assez simple, c'est celui du corps. Quand on souffre dans notre corps, en général, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas correctement et qu'il faut faire quelque chose. Donc souffrance, ça nous dit indicateur, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps, il faut absolument agir. Alors grâce au progrès de la médecine, bien évidemment, on peut supprimer la souffrance. Une fois que le problème est identifié, on peut prendre des médicaments, on peut intervenir, la plupart du temps. Malheureusement, pas toujours, mais la plupart du temps, on peut quand même. Et cette souffrance, finalement, elle nous aide à trouver l'origine du problème. Alors, ça c'est un peu grâce aux séries, mais bon, j'ai vu que ça existait vraiment. Il y a une maladie qui s'appelle l'insensibilité congénitale à la douleur. Alors, ceux qui ont vu les séries peut-être savent de quoi je parle. C'est une maladie très rare, heureusement. Cette maladie se caractérise par la perte du sens de la douleur sous toutes ses formes et sur tout le corps, avec conservation des autres sens, sensations tactiles. Ok, c'est clair. Donc, en gros, si vous vous êtes percé avec un couteau, vous le sentez pas. Ça vous fait pas mal. Alors, ça pourrait être pas mal, on se dit, ouais, c'est cool. Mais en fait, non. Parce que les personnes qui en souffrent ont une espérance de vie réduite. Parce que c'est pas la maladie elle-même qui cause la mort. C'est les accidents et les complications qui lui sont liées. Parce qu'effectivement, vous pouvez vider de votre sang intérieurement, vous ne le sentez pas. Donc, il peut y avoir des accidents graves par rapport à ça. Donc, en fait, finalement, paradoxalement, ne pas souffrir peut aboutir à la mort. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà, donc je me dis, c'est un peu pareil pour notre âme. Bien sûr, encore une fois, il ne s'agit pas de souffrir pour souffrir. Hein. C'est juste qu'on peut en tirer quelque chose. De la même manière, hein, quand on est malade dans notre corps, voilà, j'ai mal au ventre, ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut régler? On peut faire ça, ok, maintenant on peut supprimer la douleur le temps qu'on règle le problème. Ok. Pareil avec notre âme. Il y a quelque chose qui ne va pas en moi, je souffre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je traverse? Qu'est-ce que Dieu veut me dire à ce moment-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu veut guérir? Parce que oui, Dieu veut guérir nos blessures. Il ne veut pas nous laisser dans la souffrance. Je prends Ésaïe 53, versets 4 à 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Vous voyez là encore le raisonnement humain. Finalement, pensez que Dieu a puni. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc voilà ce passage qu'on connaît bien. Il a porté nos souffrances, nos douleurs. Donc il veut pas qu'on reste avec ça. Hein, Dieu est venu pour nous guérir, nous délivrer. Et du coup, l'image qui est aussi prise ici, nous étions tous errants comme des brebis. Et effectivement, alors je suis pas particulièrement une grande connaisseuse des moutons, mais ça me paraît évident qu'une brebis errante, elle a plus de risques de se mettre en danger et de se blesser. Hein, si elle est toute seule à 10 km du troupeau, elle a plus de chances de se faire attaquer, elle a plus de chances de tomber dans un ravin, et puis le berger il est loin donc il peut pas tout de suite intervenir. Donc effectivement il y a des risques. Et Jésus lui, bien sûr, il est décrit comme notre bon berger, qui prend soin de ses brebis et qui soigne ses brebis. Il y a une, si je me trompe pas, c'est une parabole que Jésus donne, hein, qui dit que voilà le bon berger il prend soin de ses brebis, pas comme c'est pas le mercenaire, je sais plus le mot qui est utilisé. C'est le mercenaire, voilà, qui lui est juste payé pour s'occuper, mais bon, voilà, il fait le minimum juste pour être payé. Si une brebis qui souffre, c'est pas son problème. Jésus, c'est le bon berger qui chaque brebis les connaît, et elles connaissent sa voix, et il veut s'en occuper, il veut les soigner si elles sont malades, il s'en occupe. Et du coup, la même chose pour nous. Jésus ne nous laisse pas souffrir juste pour qu'on apprenne une leçon. Ah ouais, tu t'es égaré du troupeau, tu vas souffrir, hein, tu t'es cassé la patte. On va attendre 2 jours avant de la réparer. Comme ça, tu vas bien voir que tu vas pas t'éloigner du troupeau, encore une fois. Non, ça c'est notre raisonnement humain. On a envie, des fois. Non, Jésus, dès qu'il trouve la brebis, il va réparer la patte. Il va pas la laisser souffrir. Dès qu'il peut s'en approcher de la brebis, il se charge de les soigner. Alors, effectivement, je garde l'image de la brebis, hein, mais bon, ça parle assez clair, assez facilement. La douleur, elle s'arrête pas tout de suite. Si on vous prend en charge, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà eu quelque chose de cassé. Merci Seigneur, moi j'en ai pas eu, mais je pense que la douleur, si vous arrivez à l'hôpital, c'est pas dès que vous arrivez à l'hôpital, vous avez plus de douleur. Il y a un processus, soit on vous donne des médicaments, soit le temps qu'on répare, etc. La douleur ne s'arrête pas tout de suite, ça peut demander du temps. Mais par contre, c'est sûr que si vous faites rien, si vous ne le laissez pas qu'il s'approche de vous, si vous ne le laissez pas s'approcher de vous, bah c'est plus français, là c'est sûr que la douleur peut ne pas s'arrêter. Donc du coup, voilà, de la même manière, laissons-nous nous approcher dans notre douleur, dans notre souffrance. On ne peut pas laisser Jésus nous guérir si on ne s'approche pas de lui, si on ne lui dit pas « voilà Seigneur, j'ai mal là ». Déjà, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Et viens, transforme-moi, change-moi. Donc j'en profite pour faire une petite pub hein, pour la Maison d'Élie, qui est un outil assez formidable pour aider dans ce domaine-là. Il n'y a pas que ça, hein, mais voilà, c'est vrai que c'est un outil qui existe et qui est assez bon pour chercher, parce que parfois les souffrances ont diverses origines et parfois c'est pas évident de les trouver tout seul. Je voulais aussi qu'on voit comment penser la souffrance différemment. Un peu bizarre de dire ça comme ça. Mais c'est là, encore une fois, on revient sur les pensées, la façon de penser. Je me souviens avoir parlé il y a très longtemps maintenant avec Florence Baldo, donc la sœur de Jérôme. Je sais plus si à l'époque, si elle était en terminale, elle faisait de la philo, ou si c'était son cycle supérieur d'études littéraires. Elle a fait Kang Hippo Kang, c'est ça, non? Un truc comme ça, voilà. Donc voilà, elle était calée. Et je sais plus pourquoi on m'a parlé de ça à ce moment-là, mais elle m'expliquait. Alors c'est marrant parce qu'elle a très bien expliqué, parce que sur le coup j'ai très bien compris ce qu'elle me disait, mais par contre j'étais incapable de le réexpliquer. C'est-à-dire que je sais pas, il y a des choses parfois comme ça, vous savez, vous saisissez le truc, mais on m'aurait demandé, j'aurais buté sur mes mots, j'aurais pas pu dire, mais j'avais bien compris ce qu'elle m'avait dit et je trouvais que c'était très intéressant. Elle expliquait que notre façon de penser, la façon dont on raisonnait dans notre tête, elle était forgée par l'éducation qu'on nous donnait, elle-même influencée par les philosophies grecques. J'imagine que ça vous rappelle quelque chose, hein, il y a eu pas mal de messages sur ça aussi. Mais voilà, c'est ce qu'elle disait de ce qu'elle avait appris dans ses cours de philo français, je ne sais pas trop, en tout cas littéraire. Et effectivement, bah, c'est vrai, vous le savez, hein, on a besoin de construire sa pensée, et pour ça on a besoin de modèles. Donc à l'école, on nous en donne un. Un modèle, voilà, ils nous donnent ce qu'ils ont décidé de nous donner selon la philosophie qu'ils avaient choisie. Alors encore une fois, pas d'extrême. Il ne s'agit pas de rejeter tout, mais l'important, c'est d'en être conscient et de connaître l'alternative que Dieu nous donne. On en avait parlé un peu ça d'ailleurs avec le groupe de jeunes. C'est vrai que c'est important de savoir qu'il y a une façon de penser que le monde nous donne. C'est un modèle. Mais Dieu nous en donne un autre. Et justement, on a eu un séminaire avec Luc Bussière qui nous a donné des clés pour voir ça différemment, pour l'éducation, la voir différemment, la voir avec Dieu. Parce que Dieu a tout créé. Il a aussi créé le système de pensée. Il a aussi créé cette façon dont on peut raisonner. Et aujourd'hui, c'est à nous de le découvrir parce qu'on l'a un peu oublié, parce qu'effectivement, la façon de penser grecque, c'est la première qui nous vient à l'esprit parce qu'on a été éduqués dans ça. Donc encore une fois, je ne dis pas qu'il faut tout rejeter, mais il faut le savoir. Comme ça, on est attentif. En tout cas, j'avais trouvé ça intéressant quand Florence m'avait expliqué ça. Alors encore une fois, même si là je l'ai réexpliqué un peu, elle avait expliqué avec des mots plus calé, on va dire, mais j'avais bien compris l'idée, et ça m'avait, mais j'avais jamais pensé à ça, quoi, c'est vrai. Bon, en tout cas, c'est pour dire que la souffrance, en tout cas l'idée de la souffrance, on la pense avec l'enseignement qu'on a reçu, la culture dans laquelle on vit, et nos expériences. Je suis sûre que, selon les cultures, on vit pas la souffrance de la même manière. J'ai pas forcément d'exemple concret à vous donner, mais je sais avoir entendu des choses sur ça. Donc la culture aussi dans laquelle on vit influence cela. Alors, on est d'accord, la souffrance, c'est loin d'être quelque chose d'agréable. Et donc en général, on ne la recherche pas, sauf exception. Notre culture, à nous, occidentaux, en France en tout cas, elle nous dit qu'on peut s'en débarrasser, on doit s'en débarrasser. Ce n'est pas quelque chose qu'on aime entendre ou on n'aime pas non plus en parler de nos souffrances. C'est dur de partager nos souffrances. On a peur d'être jugé. On a peur qu'on ne comprenne pas. Parce qu'on a vécu quelque chose d'unique. C'est nous qui l'avons vécu avec tout ce qu'on est, tout notre passé, etc. On a vécu quelque chose. Et le fait de le dire, on n'est pas sûr qu'on va être compris. On a peur d'être comparé. Tu crois souffrir si tu savais ce que moi j'ai vécu ou si tu savais ce que l'autre il a vécu. Mais toi, t'as rien vécu, mon vieux. Ok, je veux juste partager ma souffrance. Et on a peur de ça. On a peur d'être comparé en disant, voilà, de quoi tu te plains. On a peur de pas être légitime. C'est quoi mes petites souffrances au quotidien par rapport à celles qui sont persécutées en Chine? Ou alors des phrases que notre culture nous donne. Je sais pas, un jeune homme qui pleure, soit un homme. Classique. Ou alors, bon, grandis un peu, quoi. Et tout ça, ce sont des peurs qui sont là, qui aident pas non plus à voir que la souffrance, on peut la partager. Je me souviens en cours de psychologie, je sais plus si c'était ma première ou deuxième année, ils avaient expliqué ça, que les personnes qui avaient souffert des traumatismes vraiment importants, parfois des trucs au niveau de la guerre, les guerres civiles, etc., qu'ils avaient beaucoup de mal à partager parce que bon, c'était quelque chose de difficile, mais en plus ils avaient aussi peur du fardeau que ça allait porter sur l'autre, parce que forcément quand on vit quelque chose de traumatisant, enfin c'est assez horrible, et la première fois qu'on peut le dire à quelqu'un, on peut voir la réaction de cette personne à, et on voit que ça peut être un fardeau peut-être trop lourd à porter, et du coup on n'ose pas le faire. Et enfin, ils expliquaient ça en psychologie, et effectivement c'est aussi une réalité. Donc parfois on se dit aussi, je peux pas lui mettre ce fardeau-là sur les épaules, je peux pas lui partager ma souffrance. Voilà, il y a les différentes excuses que j'ai pu dire, hein. J'ai peur de d'oser partager cette souffrance, il va pas me comprendre, il va comparer mes souffrances, c'est vrai que finalement moi c'est pas très grave, et tout ça c'est des choses qui nous empêchent de partager ce qu'on vit. Je me souviens avoir, quand j'étais encore une fois à l'école biblique, on était engagés dans différentes choses et on avait eu un séminaire de femmes. Et on était plusieurs à être des équipiers de prière. Et j'avoue, je me souviens, j'avais une dame qui est venue vers moi. Et elle était très hésitante à me parler parce qu'on voyait qu'elle avait souffert beaucoup. Et puis finalement, voilà, elle m'explique sa situation. Et en gros, je vous la fais rapidement, hein, mais son mari l'avait attaquée avec une hache alors qu'elle était en train de dormir. J'ai vu les traces, hein, c'était pas mytho. Alors forcément, bon, elle m'a expliqué ça plus, je vous le fais la version courte. Alors forcément, effectivement, moi j'ai déjà, je fais « Ah ouais, quand même !» Et c'est vrai que c'est pas évident d'entendre la souffrance de quelqu'un d'autre. Et c'est, ça peut être, alors bon, quelque part c'était effectivement très violent. Je pense qu'il y a des choses encore plus violentes que ça. Mais on est là, et là j'étais là, « Seigneur, moi, aide-moi à lui donner ton amour. » Parce que moi, j'avoue, ça me dépasse. Je peux même pas imaginer. Hey, c'est horrible. On est en train de dormir tout d'un coup. Bon, voilà. Enfin, et moi, comment est-ce que je peux, du haut de mes, je sais pas, j'avais 20, 21 ans, comment est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux apporter à cette femme? C'est vrai que sa souffrance me dit, waouh, purée. Du coup, la confiance dans les hommes, tout ça, c'était, bon. Vous avez mis tout ce qui va avec, la souffrance. Mais elle a osé partager. Et bon, je sais que j'étais pas la seule, hein, je vous rassure. Elle était suivie, sûrement. Enfin, elle m'avait dit qu'elle avait pu parler avec d'autres personnes, hein. Mais, voilà, je pense que c'est important. Nous, on a Jésus. Et c'est vrai que quand on parle avec quelqu'un de nos souffrances, on peut aussi remettre ça à Dieu. Alors, quand on est celui qui donne, qui partage sa souffrance, on peut, voilà, dire, Seigneur, aide-moi à pouvoir exprimer les mots et garder la personne. Et la personne qui reçoit, qui entend la souffrance de l'autre, n'a pas à porter cette souffrance. Puisque Jésus l'a portée pour nous. Okay? Donc, on est là pour aider, pour être une oreille, pour accompagner, pour dire que c'est ok de partager ta souffrance. Et nous, c'est vrai qu'on fait une échelle, hein, de souffrance, mais c'est une souffrance, c'est notre vie. Quand on souffre, on souffre. Et voilà, et nous, on peut remettre ça à Dieu, qui lui a porté ses souffrances. Et bien sûr, on est dans la compassion, on est dans l'amour, mais on faut pas qu'on prenne le fardeau non plus de l'autre. Alors du coup, les différentes peurs que j'ai pu exprimer tout à l'heure, hein, la comparaison, de pas être compris, c'est vrai qu'il y a des paroles qui pourraient être prononcées, hein, comme je dis là, sois un homme, grandis, arrête de chouiner, voilà. Mais en vrai, c'est pas ce qui risque d'arriver le plus souvent, si vous vous offrez. Parce que souvent, c'est des mensonges qui vont avec la peur, hein, la peur qui nous retient. Donc cette peur-là, elle est faite pour vous enchaîner, que vous restez dans votre souffrance, et en plus, vous souffriez de souffrir tout seul. C'est aussi une souffrance de souffrir tout seul. D'avoir personne avec qui le partager. Donc voilà, ces peurs, elles nous retiennent et elles nous empêchent de nous débarrasser au final de cette souffrance une fois qu'on a identifié ce qui ne allait pas. Donc encore une fois, donc toutes ces pensées-là, c'est des façons humaines de penser. On compare, on limite. Donc aux yeux de Dieu, toutes les souffrances sont importantes, car elles affectent ses enfants bien-aimés. Encore une fois, je reviens sur Ésaïe, hein, il a apporté toutes nos souffrances, nos douleurs, parce qu'il nous aime. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Pas juste une partie. Il n'a pas dû juste la moitié des souffrances, ou alors celles qui sont sur une échelle de 1 à 10, juste celles qui sont au-dessus de 5. Le reste, vous débrouillez. Non, il a tout porté. Dieu ne veut pas rafistoler l'être humain. Il veut nous rendre entiers, complets, intègres. En anglais, il y a le mot « whole », pour ceux qui ça parle. Voilà, c'est être, rendre entier, complet, intègre. Quand quelque chose est détruit, il ne veut pas juste mettre un bout de ficelle par-ci, une agrafe par-là, puis tiens, si ça tient, tant mieux. Non, Dieu veut restaurer complètement. J'avais cette image en tête aussi. Quel parent renverrait son enfant? Je sais pas, je pensais à Ethan. Vous imaginez Ethan, il a couru sur le gravier, il est tombé, il s'est gratiné la main. Voilà, il a même pas de sang, mais il y a juste un peu de main. Et il va voir David en pleurs. Il vient chercher du réconfort. Et vous imaginez là, David qui dit non, mais qu'est-ce que tu fais, Ethan? Pourquoi tu pleures? Tu t'imagines dans le tiers monde, il y a des enfants qui meurent. Pourquoi tu te plains? Mais arrête, t'as rien du tout. Est-ce que vous imaginez ça? Non. Non, il va regarder sa douleur, il va dire « Oh mon pauvre petit », il va lui faire un bisou, il va le prendre dans les bras, parce que Ethan, il vit quelque chose à son niveau qui est difficile, il s'est fait mal, il a eu peur, voilà, et il a du réconfort. Et le parent, la plupart du temps en tout cas, il va apporter ça à son enfant. Donc encore une fois, Dieu, qui nous voit comme ses enfants, il va apporter cette consolation. Effectivement, à nos yeux humains, quelqu'un qui, je sais pas, qui a eu le cœur brisé par une relation amoureuse, et quelqu'un qui se fait torturer en Chine parce qu'il est chrétien, on va comparer, on va se dire ah ouais, mais la douleur est quand même plus forte, que vaut mieux avoir le cœur brisé. Non, bah Dieu réfléchit pas comme ça. Ça c'est nous. Encore une fois, c'est notre pensée. On compare tout, on met tout, voilà. Non, chaque souffrance est dure, chaque souffrance est importante parce que elle concerne l'être humain que Dieu a créé, que Dieu aime, que Dieu a envoyé son fils Jésus pour mourir pour chacun. Et du coup, chaque chose qui arrive est importante, de la même manière que chaque petit bobo qu'Ethan va avoir, David et Amélie, ils vont être derrière lui. Alors bien sûr, il y a un moment, ils vont lui dire, bon, là, écoute, il faut que tu apprennes, quand il y a ça, c'est pas grave, c'est pas trop grave, etc. Mais il lui apporte le réconfort, il lui donne des outils pour gérer aussi ça. Donc voilà, la même chose, Dieu aussi veut nous faire grandir, mais il ne méprise pas ce qu'on traverse. Donc voilà, du coup, si je reprends le fait qu'il y a différentes souffrances, elles sont toutes réelles, elles sont toutes importantes, mais les réponses ne sont peut-être pas identiques, effectivement. On ne va pas répondre de la même manière, effectivement, à un enfant qui s'est égratigné une main que quelqu'un qui a eu le bras coupé dans un accident. Enfin, je veux dire, bien sûr, il n'y a pas la même réponse. Mais il y a par contre, il y a exactement la même chose au niveau du but, c'est-à-dire consoler, protéger, rassurer, restaurer, guérir. Et ça, c'est quelque chose qui est dans le cœur de Dieu. Et ça rejoint tout ça aussi. Ça rejoint l'image que nous avons de Dieu et de nous-mêmes. Est-ce qu'on croit que Dieu nous aime suffisamment pour se soucier de nos petites souffrances? Parce qu'on a eu un 5 sur 20 en maths, c'est une souffrance. Quand on est à l'école, c'est une souffrance. Il se soucie autant de cette douleur-là que quelqu'un qui a perdu un être cher. Mais c'est comment est-ce qu'on voit Dieu? Est-ce qu'on le voit effectivement comme ce Dieu qui nous aime et que on est important à ses yeux et que tout compte quand il nous regarde? Ou est-ce que c'est ce Dieu à l'image humain qui dit « Ok, ça c'est important, ça non, ça tu verras avec quelqu'un d'autre ». Comment est-ce que je vois Dieu? Comment est-ce que je vois moi-même? Est-ce que je vole pas le coup de toute manière? Je vais rester dans mon coin puis je vais rien dire parce que bon, personne ne s'intéresse à moi. Je suis pas important. C'est pas grave ce qui m'est arrivé. Il y a des gens qui vivent plus dur que nous. Oui, mais vous aussi, vous avez votre importance. Chacun d'entre nous, on a notre importance. Donc ça, voilà, c'est important aussi de... On revient souvent aux mêmes choses, hein, mais c'est ce qui fait aussi qu'on est humain. Donc la souffrance, elle n'est pas à être recherchée, mais elle ne doit pas non plus être évitée à tout prix. Il faut savoir lire ce qu'elle nous dit. Donc vraiment, je vous invite, quand vous réfléchissez à ça, à rester dans cet équilibre. Voilà, que comment est-ce qu'on voit la souffrance? Pourquoi elle est là? Est-ce qu'il y a... Parfois, il n'y a pas forcément de raison, on ne sait pas. Il y a des choses, des fois, on n'aura pas de réponse. Mais ça vaut toujours le coup d'aller à Dieu et de dire à la Seigneur, j'ai cette souffrance, j'ai cette difficulté, est-ce que tu veux me dire quelque chose? Et qu'est-ce que je dois faire? Peut-être qu'il n'y aura rien. Peut-être qu'il y aura quelque chose à pardonner. Peut-être qu'il y aura quelque chose à dire simplement, va à l'hôpital. Enfin, voilà, mais le réflexe que la souffrance, il faut parfois se dire, bon voilà, je souffre, ok, ça fait partie de la vie. Est-ce qu'il y a quelque chose à prendre là ou pas? Honnêtement, encore une fois, hein, la souffrance, c'est pas une... On a cette réflexion, tu souffres parce que t'es puni. Alors ça, faut le sortir de la tête. Parfois, Dieu peut utiliser quelque chose pour nous faire réaliser ça, mais c'est pas une punition. Il y a aussi des citations qui existent, que vous connaissez, par exemple, ce qui ne nous tue pas ne nous rend plus fort. La souffrance est un bon professeur, ou encore la souffrance est salutaire. Je veux pas dire que tout ça c'est vrai ou c'est faux, mais ce que je sais, c'est que Dieu est bon. Et s'il a permis que la souffrance fasse partie du lot suite à la chute, nous pouvons en retirer quelque chose, parce que Dieu est toujours dans l'équation. Il est toujours là, en tout. Et donc, pour moi, il s'agit vraiment de faire confiance à Dieu. Et que peu importe les circonstances, de croire qu'il est bon. J'étais trop contente avec la louange ce matin. Je dis, ouais, c'est cool, ça va dans le sens de ce que je voulais dire. Ça m'a rassurée. Pour moi, c'était... c'est bon. Ça va un peu dans le même sens. Merci Seigneur de m'encourager. Et c'est vrai, c'est ça. Et je dis, vraiment, je sais que c'est pas facile. Hein. On vit tous des choses qui sont compliquées. Et moi, la première, humainement, la première chose, la souffrance, tu dégages. J'en veux pas dans ma vie. Mais ce qui est important, c'est pas souffrir ou ne pas souffrir. C'est comment est Dieu dans ma vie? Où est-ce qu'il est? Quelle place il prend? Comment est-ce que je le vois? Et est-ce que j'arrive, même dans la tempête, à croire que Dieu est bon? Que peu importe les circonstances de nos vies, il est constant et il ne change pas. Je rappelle ce que dit Jacques 1,17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. On ne peut pas faire mieux au niveau stabilité. Donc, si on croit que la Bible est vraie, si on croit qu'elle est le socle de notre vie, ce que Dieu dit est toujours vrai. S'il n'y a pas de changement, ça veut dire que Dieu est bon, en tout temps. Même quand on ne le comprend pas, même quand on a du mal à l'accepter, même si on traverse des choses qui ont envie de nous dire le contraire. Il faut rester sur les vérités. Dieu est bon. Et aussi, Dieu sait ce qu'il fait. Il est aux commandes. C'est lui qui règne, c'est lui qui est sur le trône. Et si on le choisit pour maître, c'est un mot qu'on utilise aussi pour Jésus, si nous lui donnons notre vie, il sait quoi en faire et comment le faire. Bien mieux que quiconque. Quand vous apprenez à dessiner un enfant à rester dans les lignes, vous savez ce que vous faites. Lui, il sait pas, il comprend pas pourquoi il doit pas dépasser. C'est parce que vous voulez qu'il y ait quelque chose de joli, apprendre à respecter les limites. Tout ça, vous le savez. Lui, il sait pas. Donc, la première chose qu'il a envie, c'est de mettre de la couleur. Mais voilà, vous savez, il comprend peut-être pas sur le coup. Je pense pas d'ailleurs qu'il comprenne. Jusqu'à un moment, il sait que c'est bien de rester dans les contours de la ligne. Donc voilà, Dieu, lui, maître de toutes choses, créateur de l'univers. Quand on remet aussi, on se dit, waouh, c'est ouf, quoi. Il sait ce qu'il fait. Et qui sommes-nous parfois pour le remettre en question? Mais bon, voilà. On n'est pas parfait. On essaie de tendre vers l'excellence, mais on a encore beaucoup de progrès à faire, c'est sûr. Alors, j'avais un film que j'ai vu il y a un moment. Et quand j'ai pensé à ce passage-là, je trouvais que c'est un bon exemple. Peut-être qu'il y en a qui connaissent Karate Kid, la nouvelle version. Enfin, nouvelle version, c'est 2010, j'en sais rien. Enfin, bref. Il y a plusieurs versions. Voilà. Alors, bon, c'est un film sympa si vous aimez les films un peu de kung-fu. Mais encore une fois, là, je mets en garde sur la philosophie qu'il essaye de faire passer. Donc, entre parenthèses, au groupe de jeunes, on en parle de temps en temps, on essaie de faire passer le message aussi, que quand on regarde un film, on essaie de se penser sur le message qu'il veut faire passer. Et, de l'autre côté, ce que Dieu en dit. Donc, encore une fois, on ne veut pas tomber dans les extrêmes. Il ne s'agit pas de plus rien regarder et de regarder que des films chrétiens. C'est très bien les films chrétiens. Mais ce qui est important, c'est que quand on regarde un film, on est conscient des risques. Il faut être averti et il ne faut pas se laisser influencer malgré nous. Parce que l'image, on sait que c'est une des plus fortes influences qu'on peut avoir, hein, plus qu'un discours encore. Et du coup, on peut se laisser très vite influencer par les films. Et si on ne réfléchit pas, on laisse le message que le film nous donne rentrer. Donc si vous regardez le film, vous passez à autre chose, vous avez récupéré quelque chose. Donc moi, j'invite toujours à me dire, j'essaie de le faire pour moi, hein, première, mais les jeunes, en disant, voilà, vous regardez un film, ok. Posez-vous 2 minutes, 5 minutes à la fin, si vous le regardez avec quelqu'un, parlez-en avec quelqu'un. Si vous étiez tout seul, réfléchissez tout seul. Qu'est-ce qu'il a essayé de me dire, ce film? Quel message j'ai récupéré dans ce film? Pour être prêt, pour dire, ok, ah ouais, ils me disent que je peux coucher avec n'importe qui avant de me marier. Ok, qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que c'est vraiment bon? Ok, moi je suis pas d'accord avec ce message. Seigneur, je suis d'accord avec ça. Juste remettre les choses en place. Vous voyez, il ne s'agit pas de faire 1 heure de dissertation après chaque film. Juste se poser et dire, voilà, qu'est-ce que ce film essaie de me faire passer comme message? Et est-ce que je suis d'accord avec ou pas en fonction des critères de Dieu? Donc voilà, c'est juste petite parenthèse. Donc voilà, du coup, ce fameux film, justement, Karate Kid, juste après la scène que je vais vous faire passer, justement, juste après ça, il y a ce petit épilogue sur le Kung Fu qui dit que le Kung Fu, il est partout, il est en nous, il est dans toutes choses, etc. Donc là, effectivement, non, hein, je ne suis pas d'accord. Pour information, donc, j'ai cherché, hein, la philosophie du Kung Fu est issue de 3 grands courants de pensée chinois, le taoïste, le bouddhiste, le confucianisme. Et le but du Kung Fu est bien entendu d'acquérir la capacité de se défendre dans un premier temps, donc ça c'est le côté où on est d'accord, mais sa finalité est de s'élever spirituellement, de renforcer son mental et d'ouvrir son cœur. Nous recherchons à dompter notre tigre intérieur et donc atteindre la sérénité de l'esprit. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça ce genre de choses, je dis, voilà ce qu'il y a derrière aussi. Et soyons conscients de ça. Ça ne veut pas dire que ne regardez plus jamais Karate Kid. Mais voilà, il y a ça. Donc sachez-le quand vous le regardez. Et de ne pas se laisser influencer. Parce que c'est Jésus-Christ qui est en tout, partout et pour tout. Alors voilà, donc je vais vous faire juste la petite partie de la vidéo. Parce que je trouve que c'est une bonne illustration. Bon, je vais mettre... Bon, vous écoutez bien, alors en tout cas, même si vous ne voyez pas trop.
Alors on fait quoi aujourd'hui?
Pareil.
Vous entendez? Vous voyez bien ce qu'il fait?
Monsieur Han, je vous l'ai dit, je capte, c'est bon, être respectueux, j'ai pigé, j'ai mis ma veste 1 million de fois, je l'ai enlevée 1 million de fois, ok? C'est débile, j'ai ma dose, ils n'ont qu'à me tabasser s'ils veulent. Et vous savez pourquoi vous n'avez qu'un seul élève? Vous êtes nul au Kung Fu.
C'est André.
Quoi?
Tu viens ici. Mets ta veste.
Monsieur Han, je l'ai
déjà dit. Mets ta veste. Mets ta veste.
Mais sans ma veste, je peux
mets
pas la...
Mets ta veste. Fort. Mets ta veste. Ferme. Enlève ta veste. N'oublie pas. Toujours fort. Enlève ta veste. Fort. Recule les pieds gauche. Recule les pieds droits. Recule les pieds gauche. Ramasse ta veste!
Wow, monsieur!
Concentration!
Okay.
Toujours attentif! Recule les pieds gauche! Recule encore! Ramasse ta veste! Reste là! Ramasse ta veste! Sois fort! Accroche ta veste! Accroche ta veste! Accroche ta veste. Attitude. Frappe. Accroche. Attitude. Encore. Encore. Bien. Mais pas de grimace. Enlève-la.
Voilà, c'est le passage que je ne veux pas mettre. Voilà, alors, comme toute image, elle n'est pas parfaite, mais ce que je voulais faire passer avec ça, c'est l'image du maître, à qui on fait confiance, et que même si on ne comprend pas tout, on sait que lui, il est en contrôle et il sait pourquoi il fait les choses. Donc là, petite explication de texte, l'histoire en gros... Le petit garçon, là, il doit déménager avec sa mère. Il était aux États-Unis et il part en Chine. J'espère que je ne l'entends pas. Et voilà, il se fait tabasser par des élèves qui l'acceptent pas. Et du coup, il décide d'apprendre le kung-fu pour se défendre. Et il n'est pas accepté dans l'école prestigieuse, blablabla, pour apprendre le kung-fu. Et il se trouve qu'il découvre que ce gars-là, il sait en faire. C'est le concierge, un truc comme ça, de son appartement. Et du coup, il dit, ouais, est-ce que tu peux m'apprendre? Et donc, du coup, il passe... dit exactement combien de temps, mais des jours, des semaines, à faire la même chose. Il lui demande de ramasser son manteau, de l'accrocher avec une attitude, de le faire tomber, et comme ça. Et à chaque fois qu'il va le voir, c'est la seule chose qu'il lui demande. Donc, au bout d'un moment, il se dit, purée, mais vraiment, voilà. Donc, vous avez entendu. Donc, il a remis en doute le maître en lui disant, mais tu sais même pas, c'est pour ça que t'as qu'un élève, tu sais même pas ce que c'est le kung-fu, tu fais rien du tout, et du coup, là, c'est le moment où il réalise que tous les gestes que lui a fait faire son maître kung-fu, avait un sens. Et que du coup, il a jamais appris toutes ses positions pour se battre, mais qu'à ce moment-là, rien qu'en faisant, parce qu'il s'est habitué à faire les mêmes gestes, il arrive à se battre, et à se défendre, plutôt que se battre. Donc voilà, bon, encore une fois, l'image est imparfaite, mais c'est juste pour dire ça, c'est que parfois Dieu nous demande des choses. On ne comprend absolument pas pourquoi il nous demande de le faire. Mais tout réside dans le fait qu'on lui fait confiance que c'est le maître qui sait ce qu'il fait, et qu'on obéit. Et qu'au final, ça va porter du fruit. Et au final, ça va nous faire grandir. Et au final, ça va faire croître notre confiance en lui, parce qu'il sait ce qu'il fait et qu'il est le maître parfait. Et que s'il a créé l'être humain, qui de mieux que lui sait comment on fonctionne? Il sait comment... Et puis nous particulièrement, parce qu'après il y a l'être humain, mais il y a toutes les individualités qui font que c'est différent. Donc voilà, du coup, c'est vraiment ça. Le maître, il sait ce qu'il fait, à qui on fait confiance, on lui confie nos vies. Dieu ne nous demande pas toujours de comprendre les choses. Et ça, parfois, c'est frustrant, on avoue. On aimerait bien savoir. On aime bien être, entre guillemets, dans le secret des dieux. On aime bien savoir pourquoi on fait les choses. Moi, je sais que j'avais beaucoup ce problème-là, si on me demandait de faire un truc, mais pourquoi je fais ça? Dis-moi pourquoi, et je le ferai. Mais parfois il nous le dit, parfois il nous le dit pas. On sait pas pourquoi, on n'a pas de réponse à tous. Mais par contre, voilà, vraiment, c'est aussi ce passage auquel je pensais en voyant ça. C'est quand on est fidèle dans les petites choses, il pourra nous en confier de plus grandes. Parce que dans les petites choses, on va faire travailler des muscles qu'on n'aurait pas pu faire travailler. C'est-à-dire qu'on peut porter 10 kilos, on peut s'entraîner pour arriver à 100. Mais si vous partez directement à porter 100 kilos, peut-être pas, quoi. Vous allez vous faire mal, etc. Et c'est le même avec la vie spirituelle, avec la vie aussi relationnelle. On a besoin d'apprendre à faire des petites choses et à être bon dans ces petites choses pour en faire de plus grandes. Donc voilà, Dieu, c'est notre maître quand on l'accepte, quand on lui demande de l'être. Il nous forme, il nous entraîne, il nous corrige, mais le plus parfaitement du monde. Parce que là, on pourrait peut-être reprocher, ouais, il doit peut-être parler un peu bizarre, ou je sais pas, enfin bref, c'est une image. Mais lui, Jésus, il est parfait. Donc il fera ça parfaitement. Il nous formera parfaitement. Il nous entraînera parfaitement. C'est nous qui allons parfois biaiser la donne, parce qu'on fait pas exactement ce qu'il nous a dit. Mais il est bon. Et il nous corrige. Avec amour. Donc il fait ça le plus parfaitement possible, parce que c'est aussi lui qui nous aime le plus parfaitement. Il n'y a pas de personne qui nous aimera plus que lui. Donc si je reviens à la souffrance, donc même quand on souffre, sachons d'abord nous tourner vers Dieu, exprimer notre souffrance, la reconnaître pour ce qu'elle est, peu importe que vous estimiez qu'elle soit petite ou grande, c'est votre souffrance, elle existe. La reconnaître, demander son aide, et aussi ce qu'il veut nous apprendre. et demander son aide, sa guérison. Il nous met un baume sur le cœur pour nous guérir. Donc, comme toute chose qui nous arrive, que ce soit bon ou mauvais, tournons-nous vers lui avec confiance. Ne pas chercher à éviter à tout prix. Ne pas chercher non plus à contourner la souffrance, mais chercher à le rencontrer. Encore une fois, pas tomber dans l'extrême de, entre guillemets, nager dans sa souffrance. C'est pas le but non plus. Toujours le but, c'est de le rencontrer, lui, dans ce que vous êtes, que ce soit dans la joie ou dans la peine. David l'avait souligné dans le chant qu'on a pris. Peu importe les circonstances, pluie, soleil, orage, etc., il est bon, il est là. Et peu importe les circonstances, on peut se tourner vers lui. Donc encore une fois, je ne dis pas que c'est facile. Loin de là. Mais obéissons et soyons prêts, parce qu'il n'a pas dit « si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », il a dit dans le psaume 23 « quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Donc on va avoir des difficultés. En tant que chrétien ou pas chrétien d'ailleurs. Alors parfois on a l'impression qu'on en a plus parce qu'on est testé, à la moindre erreur on sait qu'on peut se faire choper par l'ennemi. C'est pas Dieu qui nous chope. Hein. C'est que l'ennemi cherche si on va dévier de la ligne. Mais je veux dire, voilà, on aura des difficultés. On a des difficultés dans cette vie, vous le savez. Et donc l'idée, c'est pas de se dire ma vie est réussie si je n'ai aucune souffrance dans ma vie. Si je n'ai rien raté, si je n'ai aucun échec. Non, c'est pas ça. Encore une fois, c'est les critères de Dieu. Et voilà, bien sûr, encore une fois, c'est pas quelque chose d'agréable, je suis bien d'accord avec vous. Mais essayons de la voir différemment. Essayons de voir la souffrance avec le regard de Dieu. Et essayons de voir pourquoi elle est là. Parfois, il n'y a pas de raison, encore une fois. Faut pas non plus chercher midi à 14h. Mais toujours, l'important, c'est d'aller à Dieu, chercher Dieu. Et je rappelle que voilà, on n'est pas dans une religion, mais on est dans une relation avec Jésus-Christ. Et quand vous êtes en relation avec quelqu'un, vous ne faites pas... je sais pas si vous êtes disputé, je sais pas, je prends mari et femme. Le but c'est pas, je vais suivre l'étape. Ok, je vais lui acheter des fleurs, je vais lui dire que je m'excuse, et ensuite c'est bon. Donc j'applique ça à toutes les disputes que je vais avoir avec mon conjoint. Bah vous savez bien que c'est pas comme ça. Ça peut être cool, mais c'est pas ça parce que chaque situation est différente. Et du coup, on peut pas appliquer un A B C. Je suis ça à chaque fois. C'est une relation. Donc à chaque fois c'est différent. Et donc pour avoir les réponses à la situation, même si la situation peut se ressembler à une qui s'est déjà arrivée, c'est toujours aller au pied de Jésus et lui dire, Seigneur, ok, qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi ça? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je peux juste me reposer en toi parce que là, j'en peux plus? Et Seigneur, avec qui je peux parler? Et Seigneur, est-ce que cette personne va comprendre ma souffrance? Ok, peut-être pas, mais en tout cas, je vais prier pour qu'elle accepte ça. Vous voyez ce que je veux dire, un peu cette démarche. Donc voilà, c'était juste, je voulais vous apporter ça. C'était sûrement imparfait, mais l'idée c'était de réfléchir à ça et de voir que la souffrance fait partie de notre vie. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on la perçoit, qu'est-ce qu'on en fait. La vie qui fait suite à la chute, hein, avant c'était la perfection, mais il y a eu la chute. Ça fait que de toute manière, tout est loin d'être parfait ou facile. Mais la certitude, c'est que Dieu est avec nous. Et je vais juste terminer avec le verset 19 de 1 Pierre 4. Donc ainsi donc que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur qui est fidèle et qu'ils continuent à faire le bien. Voilà, qu'ils s'en remettent au Créateur qui est fidèle. Seigneur, je te remercie parce que tu es bon. Tu es notre maître qui sait parfaitement là où nous emmener. Seigneur, tu n'appliques pas un schéma pour tout le monde. Tu es ce Dieu qui se soucie de nous individuellement et qui connaît nos souffrances, nos joies, nos peines, nos points forts, nos points faibles. Et je prie pour que, Seigneur, tu nous aides à te voir toujours plus pour qui tu es. Parce que toi, tu es ce merveilleux Seigneur, ce merveilleux Sauveur qui est parfait, qui nous conduit, qui nous aime, qui nous soigne. Et Seigneur, donne-nous de voir les choses avec tes yeux, avec ta compréhension. Et non pas comme la façon de penser de ce monde, Seigneur. Que nous puissions être renouvelés dans nos pensées, que nous puissions être ressourcés en toi, Seigneur. Que lorsque nous lisons ta parole, qu'elle puisse transformer nos pensées. Seigneur, je prie pour chaque personne ici ce matin. Que ceux qui sont dans des situations de souffrance, Seigneur, que tu puisses intervenir. Qu'il n'y ait pas de honte de chercher à cacher une souffrance qui existe, de chercher à supprimer à tout prix pour pas qu'on voit. Mais Seigneur, qu'il y ait une ouverture, un vrai partage, Seigneur. Que ce soit d'abord avec toi et ensuite les uns avec les autres. Que nous puissions apprendre à aimer et prendre à non pas prendre le fardeau les uns des autres, mais porter avec pour accompagner. Seigneur, merci, parce que même si voilà, la vie n'est pas forcément la vie parfaite dont on pourrait rêver, mais elle est parfaite parce que tu es avec nous. Vraiment, Seigneur, je te remercie pour ta parole, je te remercie pour ta bonté. Et Seigneur, je veux aussi te prier pour chacun, pour cette semaine, que tu accompagnes, pour ceux qui sont déjà en vacances, bénis-les, que ceux qui sont encore à l'école ou au travail, accompagne-les. Et Seigneur, nous voulons vraiment aussi te remettre cette situation en France et dans le monde, où cette épidémie, Seigneur, qui a fait beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de souffrances. Et Seigneur, je te prie pour que tu puisses rencontrer chacune des personnes qui ont souffert à cause de tous ces morts, de toutes ces maladies qu'il y a pu avoir. Et que ce soit l'occasion, Seigneur, qu'ils te rencontrent et qu'ils se déchargent de cette souffrance. Parce que tu as porté nos souffrances, tu as porté nos douleurs. Merci Seigneur pour tes bienfaits, merci pour ton amour. Sois loué Jésus. Amen.